France Culture.
Bonjour Eric Odorino.
Bonjour Caroline Bouet.
On vous a quitté à la fin de l'épisode précédent, le deuxième, au moment où je disais que votre père adoptif, Michel Fotorino, mettait sur votre dossier de chaise quand vous étiez étudiant, consciencieusement, le journal Le Monde pour que vous le lisiez. Eh bien, c'est une ouverture pour ce troisième temps où nous allons parler de votre carrière de journaliste jusqu'au Monde où vous avez passé 25 ans et vous avez progressivement gravi les échelons jusqu'à devenir directeur et président du directoire du groupe Le Monde pendant 5 ans, de 2007 à 2010-2011, on verra cela. Et vous avez raconté toute cette aventure dans un livre qui s'intitule « Mon tour du monde ».
Oui.
Paru chez Gallimard et qui est disponible bien évidemment en poche. Dites-nous quand est née cette envie de faire du journalisme, sachant que ça n'était pas vos études préalables. Enfin, vous avez fait du droit,
oui.
Vous êtes allé à Sciences Po Paris,
ouais.
Intérêt pour l'économie, pour la justice, pas mal, la littérature évidemment.
Oui. Alors, je pense qu'il y a deux moments qui sont fondateurs, mais probablement que maintenant je peux le dire, alors que sur le coup, j'aurais pas pu les discerner et dire c'est parce que j'ai vécu tel moment que j'ai voulu être journaliste. Il y en a un petit et un plus grand. Le petit, c'est que lorsque je suis étudiant en droit à La Rochelle, j'ai 19 ans, j'ai fait beaucoup de courses de vélo, donc le journal Sud-Ouest, ils me connaissent parce que le lundi, il y a mes résultats de courses du dimanche, donc ils savent à peu près mon nom. Je pousse la porte pour demander un stage. Et là, c'est sur le port de La Rochelle, ensoleillé, le quai du Perret, le début du mois de juillet. Et les stages, arriver mois de juillet pour demander un stage, c'est quand même s'y prendre très tard. Mais le chef des sports me reconnaît et il me dit « Écoute, le Tour de France passe dans quelques jours à La Rochelle, viens m'aider à faire une page ». Et donc ça commence comme ça. Je l'aide à écrire cette page sur le passage du Tour à La Rochelle. Et il m'envoie, comme ça se passe plutôt bien, suivre un tournoi de tennis. Et dans ce tournoi de tennis, qui est d'un bon niveau, il y a une femme qui joue, qui est ancienne championne olympique, qui s'appelle Colette Besson. Et là, je perds mes moyens quand il me dit « Ce serait bien que tu ramènes une interview ou un portrait de Colette Besson ». Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Et je suis quand même, je l'ai dit déjà, très timide. Donc je me rends au tournoi, je vois Colette Besson faire son match, finir le match, entrer au vestiaire, fermer son sac, être sur le point de partir. Et moi, je tourne, je suis là et je n'ose pas. Et je me dis, mais si jamais je la laisse partir, je rentre même pas au journal, tellement j'aurais eu honte. Et donc, je finis par me mettre dans son chemin et balbutier quelques mots. Et elle comprend que j'aimerais lui parler un petit peu. Elle a entendu Sud-Ouest. Très gentiment. Elle me dit, on s'assoit si tu veux ou si vous voulez. Et là, je peux lui poser quelques questions. J'ai mon interview et je vais qui paraît dans Sud-Ouest. Donc, c'est la première fois où je me dis... pour faire ce métier, faut sortir de soi, faut aller vers les autres et faut oser aller les rencontrer et leur parler, etc. Et puis, il y a un autre épisode, à peu près à la même époque. Je fais du droit, comme vous l'avez dit. Un concours de circonstances m'amène à devoir faire un exposé sur de droit constitutionnel à la Ligue des droits de l'homme de La Rochelle, parce qu'un de mes copains qui est très brillant, qui a une assurance formidable pour parler tout ça, que connaît ça par cœur, ne peut pas y aller. Il me dit mais vas-y, ce sera très bien. Et alors moi évidemment je suis tremblant et j'y vais. Les choses se passent bien parce que j'ai voulu tellement qu'elles se passent bien, mais enfin je suis très intimidé devant ces adultes donc le président est un avocat. Il s'appelle Maître Chantecaille et il me dit, si vous voulez, il y a un procès d'assises, parce qu'on est en 1979 à Saintes, et je vais défendre un jeune homme de 20 ans qui a tué le receveur des postes, et si vous voulez venir, venez. Et donc me voilà aux assises de Saintes, et là je vois la famille de la victime, je vois la famille du meurtrier, de celui qui a tué, et ses avocats, les juges. Je trouve ça passionnant, mais dans un coin du palais de justice, il y a une jeune femme avec, je me souviens, des grosses lunettes, avec des verres épais. Et elle note. Et je comprends que c'est une journaliste. Et tous les matins, je me précipite sur Sud-Ouest pour aller lire son compte-rendu d'audience. Et donc, si vous voulez, je pense que ce moment-là est peut-être fondateur dans la mesure où il y a deux choses qui s'interpénètrent. C'est le fait que le journaliste, il est ni le juge ni l'avocat, mais il va essayer de raconter cette histoire au mieux. Elle écrivait très bien, c'était très précis. Ce qu'elle avait retenu, ça m'aidait, ça m'éclairait beaucoup sur même ce que j'avais entendu. Et la deuxième chose, c'est peut-être que j'ai associé aussitôt journalisme et justice. Et je pense qu'après, c'est ce qui m'a guidé, qui était d'ailleurs très présomptueux, par ce qu'on écrit, on peut rendre le monde un peu meilleur parce qu'on aide à le comprendre. Et c'est vrai qu'après, plus tard, beaucoup de reportages que j'ai faits dans les pays d'Afrique, en Amérique du Sud ou même dans les pays de l'Est, non pas qu'ils étaient guidés par cette idée d'être un justicier, mais il y avait quand même toujours l'idée que bien informer, bien raconter le sort des gens, c'était peut-être les aider à mieux vivre.
Alors, vous n'avez pas choisi la voie de la justice pour écrire. En tous les cas, c'est pas celle qui s'est imposée. C'est plutôt l'économie qui s'est imposée à vous, Éric Fautoréno. Après quelques piges à Libération, dans divers journaux, à l'événement du jeudi, qui était alors dirigé par Jean-François Kahn.
J'étais dans le premier numéro de l'événement.
La Tribune de l'économie.
Ouais.
Et vous vous spécialisez dans les matières premières agricoles exotiques, c'est-à-dire que vous êtes devenu incollable sur la production comparée de pays à thé ou à cacao.
C'est ça, exactement.
Vous voilà... D'ailleurs, vous en avez fait la matière, votre premier essai, Le Festin de la Terre, en 88, mais vous voilà, en 1986, dans le journal de vos rêves, dans le journal qui était sur votre dossier quand vous étiez étudiant, Le Monde.
C'est ça.
Comment y êtes-vous entré?
D'abord, j'ai failli ne pas rentrer. Mais je rentre, comme vous le dites, à la Tribune de l'économie, avec beaucoup de culot, c'est-à-dire que le culot des timides. J'étais allé voir ceux qui créaient ce journal, qui étaient d'anciens du Monde, et je leur ai dit, dans le métro, vous faites des pubs pour dire que la Tribune, ce sera le Financial Times français. Est-ce que vous avez prévu une page sur les matières premières? Alors, ils m'avaient regardé éberlué, et j'avais fait des piges à La Croix, à La Vie française, qui est un journal économique, à La Côte des Fossés, aux Échos, sur les matières premières. Donc, je m'étais fait bricoler avec des ciseaux, de la colle. J'avais fait une maquette, en fait, de qu'est-ce que ce serait une page sur les matières premières. Et le rédacteur en chef de la Tribune, qui s'appelait Philippe Labarde, a trouvé ça formidable et ils m'ont embauché. Et là, ça a été une vie de Tintin reporter, puisque je suis allé voir les marchés à terme de Chicago, de New York, j'ai été voir les récoltes de cacao en Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai écrit sur la crise de l'étain, sur la crise du nickel en Calédonie, la Malaisie, etc. C'était extraordinaire. Je suis allé interviewer Pierre Boulle, qui avait écrit La planète des singes, mais aussi Le sacrilège malais sur l'implantation ratée du taylorisme dans les plantations d'EVA. Bref, ça devient tellement romanesque. Donc, je fais ce travail. Mes papiers sont souvent publié à la Une, parce que je ne connaissais pas ce concept de la Une. Et donc, mon nom commence de journaliste spécialisé sur les matières premières. Et 6 mois plus tard, je reçois un coup de fil du chef du service économique du Monde, qui s'appelle Bruno de Thomas. Ils voient au Monde ce que je suis en train de faire, et ils veulent la même chose au Monde, donc ils me demandent de venir. Et là, cas de conscience, c'est le journal que mon père a mis sur le dossier de la chaise. Mais Philippe Labarde, avec Jean-Michel Quatrepoint, ces deux anciens du Monde, qui m'ont donné ma chance. J'étais personne, j'avais 23 ans, 24 ans. Qui m'ont donné ma chance. Une page tous les jours, vous vous rendez compte? Et je peux parler, je suis libre. C'est le journaliste tel que j'aurais rêvé. Je vais pas les quitter. Je vais pas m'en aller. Donc, je dis non au Monde. Je dis non au Monde. Le temps passe. Et moins d'un an plus tard, toute cette direction de la Tribune démissionne en bloc parce qu'ils sont en désaccord avec l'actionnaire de ce journal, vous voyez.
Déjà.
Et ils partent. Et donc, et moi, quand je vois ça, je pars aussi. Mais sauf que eux, ils savent où ils vont, tous les uns les autres. Il y en a qui vont à l'Expansion, il y en a qui vont à Libération, il y en a qui vont à la radio, etc. Mais moi, je n'ai nulle part où aller vraiment. Mais la liste des noms des partants est publiée peut-être par l'AFP, du coup, est reprise dans des journaux. Conflit à la Tribune, départ de 45 ou 50 journalistes. Bruno de Thomas me téléphone. Il me dit « Bonjour Eric, j'ai vu que vous étiez sur la liste des partants, donc maintenant vous venez. » C'est extraordinaire.
Et vous y êtes entré. 1986. Dans les années 88-91, parce que nous aussi le temps tourne, bien entendu, Éric Fautoréno et votre tour du monde, votre livre, il est très gros. On va aller un peu vite. Dans les années 88-91, vous êtes grand reporter. Vous multipliez les voyages dans le monde. Parmi les plus marquants, on peut citer l'Éthiopie, frappée par la famine. Madagascar, où vous avez vécu une tentative de coup d'État. Le Panama, l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, vous avez connu des années à la fois fastes et puis des années difficiles que vous retracez justement dans votre tour du monde. Des changements à la tête du journal, des rachats de titres de presse, la création du groupe Le Monde, la direction de Jean-Marie Colombani et Louis Plenel, la publication du livre de Pierre Payan et Philippe Cohen, la face cachée du Monde, les rivalités internes, la compétition pour la reprise en main, la victoire du trio Pigas-Niel-Berger, etc. Est-ce que, si on essaye d'être un peu synthétique, vous diriez que, de toutes ces années, vous avez connu, en fait, une énorme bascule qui correspond, finalement, à la bascule à la fois économique et éditoriale de la presse nationale et dont Le Monde a été emblématique?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que quand j'arrive dans ce journal, il y a quelques machines à écrire, il y a des téléscripteurs, il y a une salle de documentation presque comme une cathédrale avec des compactus, ces grandes armoires métalliques pleines de dossiers qu'on remue avec des volants de semi-remorque. Au fur et à mesure, la technologie va accélérer un changement extraordinaire de dématérialisation, puisque va arriver l'informatique, les ordinateurs, et puis après, bien sûr, le numérique, etc. Et en même temps que ça, la presse écrite, et en particulier Le Monde, qui vit sur un modèle depuis un siècle et demi, Le Monde n'est pas né il y a un siècle et demi, mais ce modèle qui existe depuis un siècle et demi, d'avoir deux lectorats, ou deux acheteurs, qui sont les lecteurs et les annonceurs publicitaires, on voit que se grippe déjà le moteur des annonceurs et commence à se gripper aussi sérieusement le moteur des lecteurs. Donc, après les années fastes que j'ai à peine connues, moi je suis arrivé plutôt à la fin de ces années fastes, c'est vraiment l'adversité, trouver des lecteurs, risquer la faillite. Le Monde vend cet immeuble de la rue des Italiens et il n'a cessé depuis d'être un nomade dans Paris, Montparnasse, la rue Falguière, et puis le boulevard Blanqui, la rue Claude Bernard, etc. Donc, c'est vrai que l'économie, le modèle économique des journaux et celui du Monde est très fortement attaqué, avec une spécificité pour le Monde, c'est que c'est un journal qui est dit donc de référence, donc tout le monde regarde ce qui s'écrit dans le Monde, qu'il est très idéologisé. C'est-à-dire que les conflits entre les personnes qui briguent la direction du Monde, puisque comme vous savez, la particularité du Monde, c'est d'avoir un directeur élu, et non seulement élu à 50%, non, à 60%, il faut... Par les journalistes. Donc, c'est aussi un journal très politique, ce que je n'étais pas d'ailleurs. Moi, je suis arrivé à la tête du Monde, non pas parce que j'avais des appuis politiques, simplement parce que j'avais inventé une nouvelle formule en 2004, après ce fameux livre qui a été dévastateur pour le Monde dont vous avez parlé.
Qui était une attaque en règle contre la direction du journal, qui a provoqué le départ d'Edoui Plenel, Jean-Marie Colombani.
Exactement.
On n'y revient pas, c'est long.
Voilà. Et donc, si vous voulez, il fallait inventer un journal au temps du numérique, qui ne soit plus exhaustif. Et moi, je crois que j'ai fait prendre un tournant, entre guillemets, historique au Monde. C'est que j'ai acté une bonne fois la fin de l'exhaustivité. C'est pas vrai que Le Monde raconte tout. Il a un site internet. Le papier, c'est comme la chair de la robe de luxe. Le papier, il faut imprimer dessus ce qu'on considère comme étant la plus forte valeur ajoutée. Pas l'information qui est partout, mais l'explication de l'information. Et puis, bien sûr, le reportage, ce qui est quand même la valeur ajoutée majeure de ce qu'est le journalisme.
Donc, réorganisation, là, on parle surtout d'éditorial, réorganisation dans ce fameux projet Vivaldi, réorganisation de la structure en trois parties, création des pages planètes un peu plus tard, mais en tous les cas, vous aviez envie, Eric Fotorino, de consacrer un moment dans le journal aux pages environnement.
Ça a été un grand bras de fer, parce que à l'époque, si vous voulez, Le Monde était constitué par un service phare qui était le service international, avec ses correspondants, avec Jacques Amalric, qui avait été le chef un peu charismatique du service étranger. Et donc, moi, j'arrive en disant, mais bien sûr, les résolutions de l'ONU, bien sûr, les guerres, etc., mais Le Monde, c'est pas ça. Le Monde, c'est des problématiques qui dépassent la question de la diplomatie et des relations entre les pays. Il faut des pages dans lesquelles on va aborder l'immigration, l'environnement, le numérique, tout ce qui a une résonance mondiale. Et j'ai dit, voilà, on va créer ces pages, elles vont s'appeler Planète. Elles vont venir dans le déroulé, dans ce qu'on appelle le chemin de fer du monde avant l'international. Alors que c'était un crise de lèse-majesté, une révolution. Ça n'a pas été facile. Et ce qui m'a fait très plaisir l'automne dernier, c'est qu'il y a eu...
En 2024,
il a été acté que l'une des grandes innovations dans la presse et au monde de ces 20 dernières années, c'était les pages Planète. Mais je peux vous dire, sur le coup, ça n'a pas été vécu comme ça. Non pas que je sois un visionnaire, mais simplement, ça me paraissait évident qu'il fallait moderniser le regard qu'on pouvait avoir sur le traitement de l'actualité internationale et que les questions environnementales étaient évidemment, comme les questions de santé d'ailleurs, je disais, mais c'est aussi la santé, les épidémies, etc. Mais pas que des mauvaises nouvelles. Aussi, comment on construisait un monde ensemble, non pas un gouvernement mondial qui n'existe pas, qui reste une utopie, mais comment on pouvait justement ouvrir les fenêtres, et ça a été très intéressant de faire ça.
Après Eric Ferrottorino, on entre dans des années qui sont des années de pouvoir. Ouais. 2005-2010.
C'est ça.
Vous devenez directeur de la rédaction en mars 2006. Vous avez été élu directeur du Monde en juin 2007. Après une séquence un peu compliquée, ouais, vous êtes finalement président du directoire en 2008. Donc de journaliste, rédacteur, celui qui écrit, celui qui va faire des enquêtes, des reportages, vous devenez directeur. Ouais. C'est pas tout à fait la même fonction. Avant vous, Edoui Plenel et Jean-Marie Colombani disaient qu'ils voulaient faire du journal Le Monde un contre-pouvoir. Vous, c'était quoi votre ambition ?
Non, alors ça, je crois que c'était la divergence majeure que je pouvais avoir avec eux, qui ont été mes patrons et avec qui j'ai beaucoup travaillé et souvent bien travaillé. Ce côté justicier, je voyais qu'il nous faisait perdre beaucoup de lecteurs et beaucoup de réputation. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est qu'on... Justement, quand j'ai été, moi, élu directeur du journal, Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, j'ai voulu qu'on ne fasse pas un journal anti-sarkoziste, mais qu'on raconte ce que c'était que cette présidence, avec ce qui était bien, ce qui était moins. Et la première année, d'ailleurs, était très positive sur autour de la crise financière.
Cela dit, ça dit beaucoup des rapports entre la presse et le pouvoir, et des rapports aussi entre le monde et le pouvoir en place. C'est une histoire au moment des 80 ans du journal en 2024. Raphaël Baquet a fait un très très long article sur cette histoire, précisément des relations entre le monde et les présidents de la Ve République. Vous, ça a été donc Nicolas Sarkozy. Et il se trouve, Eric Fotorino, qu'en mai 2009, dans un éditorial, vous reprochez au chef de l'État, ça, je vous cite, vantardiser sa frénésie, et ça a provoqué une crise assez grave. Vincent Bolloré, ami de Nicolas Sarkozy, annonce qu'il cesse de faire imprimer son quotidien gratuit direct matin sur les rotatives du Monde. Le journal du dimanche, propriété d'Arnaud Lagardère, lui aussi ami du président, change d'imprimerie lui aussi. Bientôt, les Échos suivent, propriété du patron de LVMH de l'époque, Bernard Arnault. Un autre ami de l'hôte de l'Élysée, si bien que vous écrivez, le pouvoir tentait de nous asphyxier par la voie industrielle.
Oui, c'est-à-dire que la relation avec Nicolas Sarkozy était impossible parce qu'il m'appelait quasiment tous les 15 jours pour me reprocher un édito, un papier, etc. Et c'était insupportable. Et c'est vrai que moi, quand j'ai voulu redonner de l'air financièrement au Monde, je suis allé vers un possible actionnaire italien, Carlo Benedetti. L'Élysée a arrêté ça, l'a dissuadé d'une certaine manière de faire cette opération. Et les amis de Nicolas Sarkozy, comme vous venez de le dire, on avait une imprimerie qui coûtait cher. Et cette imprimerie, elle était à l'équilibre économique puisqu'il y avait les Échos, puisqu'il y avait le JDD, où il y avait le Direct Matin de Bolloré. Évidemment, dès lors qu'ils décident de ne plus imprimer leur journal sur cette imprimerie, sur les rotatives de cette imprimerie, ils nous étranglent financièrement. Donc là, j'ai compris ce que c'était que le pouvoir. Et je me souviens, un jour, Nicolas Sarkozy me reçoit dans son bureau à l'Élysée, et il me dit, Eric, vous êtes un imbécile. Bonjour, rien. Donc je m'assois derrière sa pyramide de chocolat qu'il avait dans son bureau. Et il me dit, il y a un grand homme de médias en France, c'est Arnaud Lagardère, et vous allez en Italie chercher un actionnaire possible, et me dit-il, méfiez-vous des Italiens. D'ailleurs, j'avais pas le cœur à sourire, mais la photo de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni faisait que la méfiance vis-à-vis des Italiens pouvait être quand même modérée. Mais je ne savais pas que derrière cette menace, il y aurait l'exécution, c'est-à-dire que ces trois industriels amis du président allaient quitter le Monde et donc évidemment nous mettre dans une difficulté financière réelle.
Et c'est cette difficulté financière que vous vous êtes évertué, Éric Fautorino, de corriger, en tous les cas de colmater, avec des choix qui ont été difficiles, de reprise, de recapitalisation. Vous avez été critiqué vous-même par une partie de la Société des rédacteurs du Monde à la suite d'un éditorial, encore un éditorial,
décidément, oui.
qui s'intitulait « Écrire une nouvelle étape » le 3 novembre 2010, oui. dans lequel vous dressiez un bilan assez sévère de toute la gestion passée du journal. Vous n'en faites pas mention d'ailleurs, j'ai remarqué, dans votre tour du monde. Et les journalistes y ont vu une mise en cause de leur travail, une mise en cause de l'histoire du journal.
Oui, c'est
76
ça.
Journalistes ont réagi en signant une lettre collective pour exprimer leur désaccord. Et tout cela s'est fait en même temps que le journal devenait propriété du trio d'investisseurs, Pierre Berger, Xavier Niel
c'est
et
ça.
Mathieu Pigasse, pour la recapitalisation. Moment difficile, je pense.
Oui, c'était difficile. Alors, cet éditorial, je n'avais fait que dire ce que, j'allais dire, tout le monde savait sur les errements, de justement, les fautes éditoriales des dernières années. Je ne m'en excluais pas, d'ailleurs. Mais j'avais trouvé quand même assez piquant de voir que certains drapaient dans une sorte de morale, considéraient qu'on ne devait pas, il y avait une sorte de tabou, on ne devait pas dire qu'on avait fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des erreurs financières, industrielles, mais il n'y avait pas d'erreurs éditoriales. Oui, alors le livre de Péan Cohen, bien sûr, on pouvait dire il était exagéré, etc. Mais les 50 000 lecteurs qui sont partis, c'est parce que ce livre avait cristallisé un malaise que ressentaient les lecteurs vis-à-vis d'un certain traitement et de la politique et de l'économie, essentiellement. Donc moi, j'avais pointé ça sur un papier qui faisait 10 pages, 10 feuillets. Il y avait un feuillet sur cette question-là. Donc c'était pas non plus, mais voilà, il y avait eu cette réaction. Mais évidemment, les nouveaux actionnaires ont été heureux de pouvoir un peu souffler sur les braises. Et donc, cette pétition était très, très manipulée, on va dire. Il y avait tous ceux qui voulaient me succéder, quand même, qui étaient là et qui ont agité le
bocal. Oui, alors, en tout cas, dans
le,
mon tour du
bocal.
Monde, on voit pas mal de rivalités, d'inimitiés, de
guerres oui,
en interne. Bon, c'est pour
une
ça
raison,
que j'ai pas envie forcément qu'on s'y arrête trop, mais.
Non, mais pour une raison assez simple, c'est que, comme je l'ai dit, moi, j'étais pas issu d'un sérail politique. J'avais pas de troupes, j'avais pas fait campagne. J'ai été élu la première fois à 63%, mais la deuxième fois à plus de 80%, pour être PDG du groupe, y compris par Télérama, par les gens de l'imprimerie, etc. Parce que, probablement, justement, ils avaient l'espoir, les uns et les autres, que je puisse transcender tout ce qui avait été ces guerres. Un peu d'arrière-garde des dernières années. Malheureusement, je pense que un journal qui ne fait pas ses fins de mois, qui ne paye pas ses fins de mois, n'est pas indépendant. S'il est dépendant de la banque ou d'un actionnaire, il n'est pas indépendant. Et c'est ça que j'expliquais à la rédaction. Et ils ne voulaient pas bien comprendre ça. Et notamment la Société des rédacteurs de l'époque, qui était particulièrement obtuse.
Et certains vous ont reproché après, en revenant sur votre direction, sur votre présidence, cette capitalisation du journal, comme si vous, en tout cas, n'y voyez pas d'autre choix que de passer sous contrôle, d'avoir recours à des actionnaires extérieurs, ce fameux trio BNP, Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Au lieu de l'indépendance, en fait, la grande question, c'est la question de l'indépendance.
Oui, mais vous savez, l'indépendance, et bien sûr, j'ai eu tellement de discussions. Nous avions 100 millions d'euros de dettes. Quand j'ai pris la direction, non pas du journal Le Monde, mais du groupe Le Monde, qu'on a ouvert les dossiers des comptes, il y avait 70 millions d'euros d'ORA, les obligations remboursables en actions, c'est assez technique. Et si on accumulait, on additionnait tout, ça faisait une centaine de millions qu'il fallait trouver le plus vite possible. Le plus vite possible, quand je deviens PDG, donc c'est en 2008, il faut remettre déjà l'exploitation du journal à l'équilibre. Ce que nous avons fait en 3 ans, avec David Guiraud et Louis Schweitzer. Mais pourquoi? Parce que l'exploitation du journal, si elle est à l'équilibre, le journal redevient désirable, entre guillemets, par des actionnaires. Personne ne voulait remettre d'argent dans le monde. Personne. Sauf, évidemment, Lagardère, qui était prêt à l'acheter à la barre du tribunal de commerce pour 1 euro, et en aurait fait quoi? Aujourd'hui serait Bolloré, le monde. Finalement, avec Louis Schweitzer, on a démantelé tous les accords qui menaient le monde à Lagardère, et on a trouvé d'autres actionnaires, on a cherché d'autres actionnaires.
Mais vous le vivez comme un moindre mal?
Ah oui, bien sûr. Parce que les actionnaires d'aujourd'hui, ils ont investi dans le monde, ils ont renforcé la rédaction. Je pense que les rédacteurs se sentent très libres. Mais si vous voulez parler d'indépendance quand on n'a pas les moyens de payer les salaires, c'est une illusion. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que ce fameux trio BNP, Bergeniel et Pigas était opposé à un autre trio, téléguidé par Nicolas Sarkozy et Alain Minc, composé de Claude Perdriel, pour qui j'ai une immense estime, et ça n'aurait été que lui, j'aurais évidemment soutenu sa candidature, mais il était épaulé par le groupe Prisa espagnol, qui lui-même avait des dettes considérables et venait d'être contrôlé par un fonds d'investissement, et par le groupe Orange, qui avait été activé, c'était Stéphane Richard, son PDG, pour être l'œil de l'Élysée dans cette aventure. Donc évidemment, c'était impossible. Et donc moi, j'ai dit clairement, entre ces deux candidatures, il y en a une qui est disqualifiée à mes yeux et une autre qu'il faut tenter, puisque c'était la seule possible.
Éric Fautorenoo, en 2024, Le Monde a donc fêté son 80e anniversaire et il a rejoint le Fonds pour l'indépendance de la presse, garant de son indépendance. De quel œil avez-vous vu, avez-vous regardé cette opération ?
Je pense que d'avoir rejoint ce fonds, ça me paraît être, sinon la garantie, mais en tout cas l'impulsion qui montre qu'il y a toujours dans ce journal cette vocation à ne pas se laisser dicter la moindre ligne éditoriale par une puissance extérieure, quelle qu'elle soit, et par une puissance intérieure, c'est-à-dire que je pense concrètement que Xavier Niel ne doit pas intervenir dans les contenus éditoriaux du Monde, et pour ce que j'en connais, je crois que c'est en effet le cas.
Est-ce que vous êtes parti amer ? Est-ce que vous vous êtes dit, et vous vous dites encore, que vous avez finalement fait un bon travail, est-ce que vous avez été un bon homme de pouvoir au sein du Monde? Qu'est-ce que vous dites?
Alors non, pas d'amertume. Moi, j'ai vraiment le même d'une manière générale dans la vie, c'est mon regard, c'est toujours le non-regret. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai passé 25 ans dans ce journal. Il m'a beaucoup apporté. Je pense que je lui ai beaucoup aussi apporté. Je ne crois pas que j'étais un homme de pouvoir. Je suis quelqu'un, je pense, de très créatif, qui n'aime pas la routine, qui n'aime pas recommencer les choses comme on doit faire. Et donc, je pense que les impulsions que j'ai apportées au Monde quand j'ai créé la nouvelle formule, lancé la nouvelle formule qui a vraiment tout de suite bien marché en 2005, ça a été un apport important. Après, je pense que j'ai évité au Monde, effectivement, de rentrer directement dans le groupe Lagardère. Et ça, je pense que sur le coup, certains me l'ont reproché, y compris la CGT, qui aurait bien voulu même l'argent de Lagardère. Avec le recul, 15 ans ont passé, je suis content quand même d'avoir fait ce que j'ai fait, même si ça m'a coûté mon poste à moi. Mais après tout, c'est pas si grave que ça, ça m'a donné une très grande liberté. Quand j'ai quitté le Monde, j'ai eu ce soulagement de me dire tu as fait ce que tu avais à faire, c'était violent, mais ce genre de poste est quand même très exposé, et puis tu feras autre chose.
Et vous avez fait autre chose.
Ouais.
C'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant. Merci Éric Fautorenoo.
Avec plaisir.
Et à demain, à suivre l'épisode 4, créateur de journaux, inventeur d'histoire.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Éric Fautorenoo. Réalisation Anne Fleury. Prise de son Olivia Branger. Chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.